Bonjour et bienvenue sur le blog Testoir Audio. Aujourd'hui, je reçois Stéphane, directeur commercial de Zamst niveau Europe. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, peux-tu te présenter aux lecteurs et auditeurs du blog Testoir Audio?
Eh bien, je suis Stéphane Janssen, donc je suis en charge de la filiale européenne de Zamst qui a été développée en avril 2009. Je suis aussi ancien athlète de haut niveau en triathlon. J'ai arrêté ma carrière sportive en 2000. Et ensuite, j'ai retrouvé ma reconversion dans une société qui s'appelle Compex, donc la stimulation musculaire, au sein de laquelle, pendant 10 ans, j'ai occupé diverses fonctions pour, sur la fin, piloter toute la partie sport sur l'Europe. La société japonaise qui m'emploie aujourd'hui était le grand distributeur pour le Japon, pour la marque Compex. Donc, c'est des gens que je connais depuis 2002 et qui, quand ils ont souhaité se développer à l'international, notamment en Europe, m'ont contacté pour qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble.
D'accord. Et en dehors de ton, quel était ton parcours sportif et comment il en était venu pour finalement aller vers ces produits-là, vers les produits de prévention et de blessures au niveau sport, pour les sportifs? Quelle était ta démarche en fait pour arriver à ce niveau-là, quoi?
Alors, bon, il y a plusieurs questions. Mon parcours sportif, j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis tout petit. J'ai commencé la natation à 5 ans. Et très vite, le triathlon m'a séduit par sa multidiscipline, justement, son côté multidiscipline. Donc, j'ai commencé en 89 et donc j'ai arrêté, comme j'ai dit tout à l'heure, vers 2000. J'ai fait 5 ans en tant que professionnel, dont 2 ans au bataillon de Joinville, puisque l'armée était obligatoire à l'époque. Non pas que je sois si vieux, hein, mais c'est quand même le cas. Voilà, et ensuite, pendant mes années de triathlon professionnel, j'ai écrit pour un magazine qui s'appelle Triathlète Magazine. J'avais une rubrique d'une dizaine de pages tous les mois sur l'entraînement, la diététique, la préparation mentale, tout un tas d'éléments qui permettaient donc aux lecteurs de se préparer à leur compétition. Ce qui m'a permis en autodidacte en fait de creuser tous les aspects physiologie, entraînement, musculation, sophrologie, diététique, de manière à écrire les articles. Et naturellement, quand j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de triathlon, c'était en 97-98, la marque Compex, en fait, qui était une marque suisse, a lancé le premier appareil pour les sportifs. Et je me suis intéressé à cette technologie. J'en ai fait un mémoire dans le cadre de ma formation de triathlète. Et le mémoire que j'ai envoyé chez Compex, Compex a été séduit par ce que j'avais produit et donc m'a recruté. Et au tout début, donc, dans cette société, puisque c'était ma reconversion, j'ai d'abord fait toute la promotion, donc aller parler aux entraîneurs, aux médecins, aux kinés de cette technologie. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a séduit d'éduquer un marché, en fait, d'éduquer ou passer un message sur comment on peut utiliser une nouvelle technologie, de nouvelles fonctions pour la préparation et pour l'entretien du corps. Ensuite, je suis passé à l'export et c'est comme ça que j'ai démarré le marché japonais et que j'ai rencontré les Japonais donc, qui m'ont peu aujourd'hui. Voilà, sans rentrer dans d'autres détails du parcours chez Compex, mais du coup, quand les Japonais m'ont approché avec ce projet de développer le réseau commercial pour une marque de prévention des blessures, je me suis retrouvé dans une physionomie en fait, de développement qui m'intéresse, c'est-à-dire éduquer un marché. Voilà, je retrouvais un petit peu les mêmes techniques, la même philosophie que ce que j'avais connu chez Compex, puisque ce sont des supports articulaires, comme on peut en voir souvent en pharmacie. Donc visuellement, le produit n'a rien d'extraordinaire, sauf que quand on s'y intéresse un petit peu plus près, on découvre qu'il y a une spécificité pour le sport qui a été très pensée, puisqu'on laisse la mobilité articulaire, qu'on laisse du confort, qu'on protège des mouvements dangereux, mais qu'on n'empêche pas la performance sportive. Et que donc, c'était des points de différenciation suffisamment importants, une technologie derrière qui était suffisamment importante pour que l'envie en fait, de passer ce message sur le marché français et sur le marché européen m'anime et que je décide de m'embarquer dans cette aventure. Voilà.
Bien. Dans combien de pays européens est distribué Zamst?
Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de pays. On a choisi stratégiquement de démarrer le marché français pour plusieurs raisons. D'une part, c'était c'est le marché du sport le plus important en Europe, devant l'Allemagne et l'Angleterre. Il y a aussi une distribution, donc des magasins de sport qui sont très bien établis, avec des magasins spécialisés dans pas mal de sports, que ce soit le running, le tennis, les arts martiaux, le rugby maintenant. Et puis il y avait un marché qui était quasi vierge en fait pour cette partie-là. Il y avait quasi pas d'acteurs dans le marché sport actifs à promouvoir ces produits-là en tant que prévention. Et donc c'était naturellement qu'on s'est dit, ben, quitte à commencer, autant commencer par le marché qu'on maîtrise le mieux. Et puis d'en faire un cas d'école pour nos partenaires européens qui pourront du coup essayer d'appliquer la même stratégie.
Ok. Et sur quels fondamentaux s'appuie Zamst pour créer ces produits? Quels sont les critères de sélection pour chaque produit que vous créez? Vous avez parlé de confort.
Oui. Alors, bon, faut déjà savoir que le groupe japonais, en fait, qui a créé la marque Zamst, a 40 ans d'existence. Donc, c'est un groupe qui s'est construit dans l'orthopédie. C'est le leader de l'orthopédie au Japon. Donc, c'est tous les produits vendus aux hôpitaux, aux cliniques et aux pharmacies pour justement la prise en charge d'une blessure. Donc, ce côté-là, on le maîtrise. On maîtrise toute la connaissance articulaire. On maîtrise toute la connaissance des différentes blessures qui peuvent survenir et comment on les prend en charge. Et du coup, c'est tout naturellement qu'on s'est intéressé à être plus en amont en fait, de la blessure, à essayer de voir comment on pouvait la prévenir. Donc historiquement, c'est une collaboration avec un médecin, le médecin de la Fédération japonaise de volleyball, le docteur Hayashi, qui a fait face à la blessure d'un de ses joueurs 6 mois avant les Jeux de Barcelone en 92. Et qui a donc souhaité accompagner ce joueur, s'assurer qu'il ne serait pas de nouveau blessé, donc qu'il n'y ait pas de récidive. Donc c'était une entorse de cheville. Et donc a contacté Sigmax, le leader de l'orthopédie, pour lui dire voilà, je voudrais un produit qui a le même maintien qu'un produit médical, la même technologie, mais en plus, je voudrais du confort, je voudrais de la mobilité pour que mon joueur puisse continuer à être performant. Et je voudrais aussi une facilité d'utilisation pour que je sois sûr qu'il puisse l'utiliser tous les jours sans trop de problèmes. Voilà, donc sur la base de ces trois critères-là, on a développé une gamme maintenant de 45 produits qui couvrent quasiment toutes les articulations, avec des matériaux innovants, avec des designs aussi qui sont au plus près des articulations. Donc, on a beaucoup de tailles différentes par produit de manière à être au plus près d'un genou ou d'une cheville de tel ou tel athlète. Et c'est vraiment cette association en fait entre le savoir-faire médical qui est historique chez nous et l'expérience terrain du sport, notre collaboration avec les athlètes. Ces deux critères ensemble qui font qu'on est aujourd'hui le leader en termes de technologie et leader sur le marché français.
Très bien. D'ailleurs, il y a une interview très intéressante de ce docteur-là qui raconte l'histoire du volley de la cheville sur le site de Zamst, qui est très, 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 très instructive. Alors, on va
Pour
continuer.
info, le docteur Hayashi, c'est peut-être la deuxième personne que j'ai rencontrée au début de l'aventure. J'ai tenu à aller au Japon pour m'entretenir avec lui. Et j'ai vraiment été séduit par le discours de prévention, en fait. Alors, bien sûr, protéger des gens qui n'ont jamais été blessés dans leur pratique, leur expliquer qu'il faut absolument se protéger parce qu'il y a des risques de blessure, c'est forcément une grande aventure. Maintenant, on a tous, en tant que sportifs, eu des moments de fatigue, des moments de douleur, des moments où on se sent un petit peu moins bien sur le terrain ou dans les chemins de course à pied. Et donc, dès l'instant qu'on sait qu'il y a un élément qui peut nous aider à compenser cette faiblesse ou du moins à nous permettre d'attendre de compenser cette faiblesse sans être blessé, là, tout naturellement, on peut se protéger. Donc, c'est notre manière de voir la préparation physique, notre manière de voir le sport même. Et c'est étonnant qu'il y ait des marchés sur lesquels cette philosophie soit très présente, comme le Japon, les États-Unis, puisque les gens se protègent avant même d'avoir été blessés. Et puis des marchés comme l'Europe, où il y a encore tout à faire.
Justement, quand on parle de l'Europe, on est plutôt réticent à mettre une chevillière ou une protection, on va dire, avant d'être blessé. Parce qu'on préfère, par exemple, faire de la musculation ou des exercices pour justement pour activer cette prévention-là. Les produits ZAMST, comment dire ça? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pareil? Par exemple, on peut faire de la prévention musculaire, on va dire, en faisant des exercices de musculation ou de proprioception pour les chevilles. Est-ce que les produits ZAMST peuvent être utiles dans ce cas-là ou peuvent permettre de renforcer la prévention?
Oui, ben, t'as mentionné un mot qui est très juste, c'est la proprioception. C'est effectivement quelque chose que l'on fait de plus en plus dans le cadre d'un entraînement bien construit. Alors, musculation, tous les autres éléments que tu as mentionnés avant ont lieu d'être. Hein. ZAMST ne va pas remplacer ces éléments-là. Ça fait partie de l'entraînement que de faire de la musculation, des étirements, du gainage surtout, de manière à bien préparer le corps à l'effort. Maintenant qu'on parle de proprioception, bah c'est vraiment l'éveil des sensations dans la dynamique du corps. Et donc, bah on s'aperçoit qu'en couvrant certaines zones, comme les articulations, comme les chevilles par exemple, ou les genoux, on va avoir une perception plus fine de cette proprioception. On va avoir un certain nombre de capteurs au niveau cutané qui, parce que recouverts par une protection, vont être stimulés. Et donc, c'est autant d'informations que le cerveau va avoir pour lui indiquer la position de telle ou telle articulation dans l'espace pendant l'effort. La différence que ZAMS a apportée dans le domaine du sport par rapport à d'autres supports articulaires qu'on voyait jusqu'alors, notamment en pharmacie et magasin d'orthopédie, c'est justement la mobilité. C'est-à-dire que je peux comprendre la réticence d'un athlète à mettre une chevillère qui va contraindre son articulation, puisque là, effectivement, il perd de l'amplitude de mouvement, potentiellement, il perd aussi de la performance dans son geste. Mais dès l'instant où cette mobilité est préservée, bah, l'effet proprioceptif de la chevillère ou de la genouillère rentre complètement en ligne de compte. Et là, on est plutôt proactif dans la proprioception, et on aide vraiment l'athlète à affiner ça. Un bon exemple, c'est un trailer qui va faire une descente avec des chevillères. Pour le faire moi-même, je sais qu'on va ressentir très tôt que la cheville part sur un caillou, etc. Et on va être capable donc de réagir beaucoup plus tôt que si on n'avait pas la cheville. Donc c'est encore une fois, on ne parle pas de plâtre, hein, c'est pas quelque chose qui va contraindre l'articulation, mais c'est parce qu'il y a une excitation des fibres de la sensibilité tactile, on sent la cheville dans l'espace, on sent le genou dans l'espace, et donc si on est bien entraîné, on peut réagir plus rapidement.
D'accord.
Ensuite, si cette réaction n'a pas eu lieu, on a toujours le rappel mécanique qui va permettre d'éviter la gravité de l'entorse.
D'accord. Donc en résumé, on va dire pour quelqu'un qui n'est pas blessé ou que ses blessures ont été lointaines, il est plutôt conseillé de mettre des produits ZAMS en prévention, par exemple sur une compétition, là où les risques sont plus accrus, pour les blessures.
Ouais, alors compétition, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on est généralement dans une dynamique où on va se donner beaucoup plus que d'habitude. Donc, on va être en sur-régime par rapport à ce qu'on fait à l'entraînement. Donc, on prend plus de risques. On va aussi explorer des zones de fatigue plus importantes. Donc on a potentiellement moins de réactions à des risques de blessures. Alors, compétition, c'est un, effectivement. Ensuite, je conseille aussi dans des périodes d'entraînement très chargées. Quand la fatigue commence à se faire sentir vraiment en fin de cycle de travail important, en sortie de l'hiver, quand on a vraiment beaucoup beaucoup travaillé, là c'est pas mal aussi de se protéger parce qu'on commence à être affûté, mais on est un petit peu fatigué. Et alors d'une part c'est dommage de se blesser à ce moment-là, mais de deux c'est aussi plus propice à la blessure.
D'accord. Et en parlant de blessures, quelles sont les blessures les plus fréquentes que vous rencontrez? Et du coup, quelles sont les protections ZAMS que vous vendez le plus?
Alors, tout va dépendre du marché, mais si on parle du running par exemple, c'est clair que cheville, genou sont des blessures très très importantes. Alors la cheville, c'est assez simple, c'est l'entorse. On trouve aussi un petit peu de tendon d'Achille. Et puis sur le genou, c'est un petit peu plus complexe parce que le genou en lui-même est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de ligaments, de tendons qui risquent d'être lésés. Qu'est-ce qu'on retrouve assez couramment? On retrouve des pathologies du tendon rotulien, notamment sur la partie trail, puisqu'on a des périodes de freinage en descente qui sont importantes, donc des sollicitations très importantes et très répétées du tendon rotulien. On a des pathologies de la rotule aussi, subluxation de la rotule notamment. Et puis, on a une pathologie qui est assez fréquente qui s'appelle le syndrome de l'essuie-glace. Donc, qui est là une inflammation du tenseur du fascia latae sur la face extérieure, externe du genou. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Donc, du coup, nous, le produit les plus demandés en fait sont les chevillères. On en a quatre modèles différents en fonction du sport pratiqué. Et puis au niveau genou, on a une série qui s'appelle la série JK pour Jumper's Knee, qui concerne donc toute la partie tendon rotulien et rotule. Et puis on a lancé l'an dernier un produit qui s'appelle le RK1, qui est donc le produit qui permet de prévenir le syndrome de l'essuie-glace, qui lui a été particulièrement demandé sur l'année de lancement. Voilà, maintenant on sait faire aussi de la ceinture lombaire. Hein. Faut pas oublier qu'une des meilleures armes pour la prévention des blessures, c'est le gainage abdo et lombaire, et qu'une ceinture lombaire, quand ce n'est pas un corset, contrairement à ce qu'on peut trouver parfois en pharmacie ou en orthopédie, quand c'est effectivement un élément qui bouge avec nous et qui permet simplement d'améliorer la pression sur la paroi abdominale pour renforcer ce côté gainage, on a là aussi un outil efficace pour la prévention.
Bien. Et pour en revenir sur la cheville, donc tu as dit que Zams proposait 3-4 modèles. Parfois les noms sont un peu compliqués quand même. Il y a A1S, A1, tu as dit pour la genouillère JK. Comment on pourrait aider, comment peut-on aider le consommateur, enfin le sportif à trouver le bon modèle? Parce que c'est quand même parfois un peu compliqué.
Oui, alors ça, ce sont effectivement des noms de code qui ont été déterminés pour le marché japonais il y a de ça une vingtaine d'années. Donc le A en fait qui concerne les chevillères vient du mot anglais ankle. Donc on a toute la série des A. Alors on a la série des A1. Puis dans les A1, on a une A1 short, une A1S. Et puis on a l'A2, l'A2DX, on l'a appelé Deluxe. Ouais, c'est pas très simple, mais c'est le deuxième ou troisième génération de cet A2. Donc l'A2, très rapidement, elle a deux renforts latéraux qui sont en résine, donc qui sont vraiment là pour apporter un maintien très fort au niveau de la cheville. Nous, on les conseille davantage pour la partie sport co, type volley, hand, basket. Maintenant, on a vu quelques trailers avec des instabilités très importantes au niveau de la cheville les utiliser, donc on peut largement courir avec. Et on a vu aussi des orienteurs qui passent plus de temps les yeux sur la carte que les yeux sur le terrain, avoir besoin de ce type de renfort pour assurer l'intégrité de leur cheville. Ensuite, dans les A1, la A1 qui a une tige assez haute, la A1S qui a une tige plus basse. Toutes les deux vont prévenir l'entorse, ce qu'on appelle en inversion, donc le pied qui rentre vers l'intérieur. Donc ensuite, c'est une question de sensibilité et de niveau d'instabilité. Voilà. Plus on va choisir la tige haute, plus la stabilité sera forte. Plus on est sur une tige basse, plus on privilégie la proprioception par rapport au renfort. Voilà. Donc conseil, c'est d'essayer en fait pour bien mesurer le niveau de maintien qu'on souhaite.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des matériaux utilisés. Tu as parlé de la résine qui était utilisée pour les produits Zamst. Quels sont les autres matériaux qui sont utilisés pour concevoir un produit Zamst?
Alors, il y en a énormément. Je mentionnais tout à l'heure la chevillère A2. Pour démontrer un petit peu la technologie, cette chevillère a 22 composants et 18 matériaux différents.
Ah, ça fait.
Donc c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Et si les Japonais prennent la peine en fait d'assembler autant de matières et autant de coupes ou d'éléments différents dans une chevillère, c'est qu'on veut vraiment aboutir à un produit sportivement acceptable, dans le sens privilégiant la performance ainsi que la prévention. Maintenant, un point important pour nous, c'est le matériau qu'on retrouve le plus, c'est le néoprène. Alors, ce n'est pas le néoprène exactement des combinaisons de natation qu'on peut trouver, hein, c'est bien sûr un autre type de néoprène, mais c'est ce qu'on trouve comme matériau le plus agréable, le plus confortable, le plus léger aussi et le plus contentif, qui nous permet donc d'avoir le meilleur compromis entre ces caractéristiques. C'est d'ailleurs. Qui point business, c'est d'ailleurs ce qui nous empêcherait, si on voulait, de référencer nos produits au sein de la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale fonctionne encore sur des textes très anciens, qui privilégiaient les matières tricotées, qui, selon nous, en tout cas, sont pas forcément adaptées à la pratique sportive. Voilà, donc on reste fidèle à notre néoprène. On vient sur le marché petit à petit avec des matières encore plus légères, pour certaines applications sur le genou, comme le RK1, dont j'ai mentionné tout à l'heure pour le syndrome de l'essuie-glace, où là on arrive avec une genouillère avec une matière très fine qu'on a développée exclusivement pour ce produit. Mais il y a des trames de fil en fait qui sont orientées en fonction des zones que l'on souhaite privilégier, toujours de manière à adapter la compression et le maintien en fonction de la zone et du mouvement.
D'accord. À quelle évolution on doit s'attendre pour les prochains produits ZAMS? Vers quelle technologie vous orientez?
Ah, quelle technologie? Nous, on continue notre travail à assurer le maintien, la mobilité et le confort. On s'aperçoit que on va travailler de plus en plus sur une partie finesse des matériaux. Ce sera l'occasion de lancement, notamment en septembre, où là, on cherche à privilégier le confort. Confort dans la chaussure, confort sur le genou, en diminuant l'encombrement, tout en préservant les qualités techniques et les protections des produits. Ensuite, il y a des réflexions plus larges, stratégiques pour déployer la marque, mais ça, c'est un petit peu tôt encore.
Et d'ailleurs, en passant sur le site de ZAMS, on peut voir que vous mettez en avant le protocole RICE. RICE, selon comment on le prononce.
Rice,
RICE. On va le prononcer en anglais, on va dire. Et peux-tu l'expliquer aux lecteurs, aux éditeurs? En quoi
bien
ça...
sûr, ouais. Donc, protocole Rice, RICE, ça n'a rien à voir avec le riz, hein. C'est pas parce qu'on est japonais qu'on a nommé ça comme ça. C'est pas nous d'ailleurs qui l'avons nommé. C'est un concept largement connu et utilisé dans beaucoup de pays. Il est balbutiant encore en France. Là encore, ça en démontre bien les différences culturelles quand on parle de préparation. Alors en français, on le nommerait grec, hein. Donc c'est au choix, soit rice, soit grec. Donc on se parle effectivement de glaçage et donc d'un protocole qui permet d'appliquer le glaçage correctement. Donc le glaçage, c'est d'abord du repos. C'est le R de rice. Donc c'est vraiment se mettre au repos de manière à profiter de cette séance et surtout ne pas créer de contraintes supplémentaires. Ensuite, c'est l'icing, donc le glaçage. Donc c'est prioritairement avec des glaçons dans une poche de glace. Pourquoi prioritairement? Parce que c'est aujourd'hui la seule méthode qui durablement permet d'abaisser la température des tissus suffisamment pour que les éléments physiologiques se produisent d'atténuation de l'inflammation, de régulation des échanges, etc., qui permettent donc de favoriser la récupération et d'améliorer la prise en charge des blessures. Ensuite, le C, c'est pour compression. Ce glaçage, il est plus efficace quand on a une compression autour de la zone glacée. Et ensuite, le E, il est élévation. C'est-à-dire qu'on conseille d'élever la zone glacée ou du moins douloureuse au-dessus du cœur pour favoriser le retour veineux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un genou ou une cheville qu'on souhaite glacer, le mieux, c'est de s'allonger, de surélever légèrement la jambe de manière à ce que le retour veineux se fasse favorablement. Voilà.
Et combien de temps doit durer le glaçage?
Ensuite, il y a quand même des critères de temps. Voilà, bah toi, on est en phase. Il y a quand même des critères de temps. Le critère de temps, c'est 20 minutes, en fait, pour une séance. Ensuite, on conseille bah, de laisser reposer 5 à 10 minutes de manière à ce que tout l'environnement redevienne à peu près normal. Et si on a le temps, de reglacer à nouveau. Voilà. Sachant que le glaçage, on peut le faire vraiment quand on veut. Surtout, moi, je conseille de le faire tous les jours, après une séance d'entraînement, sur une douleur en particulier ou sur une zone qu'on sait fragile. Il faut vraiment appliquer du glaçage. Savoir que nos universités américaines, il y a des machines de glace dans toutes les salles de sport, dans les hôtels partout également. Donc c'est vraiment une méthode qui est largement utilisée.
Donc là, tu parles du glaçage pour la récupération, en fait, et aussi pour la prévention des blessures. Donc, tu dis que c'est un système à mettre régulièrement en place après les entraînements. Et Zamps propose aussi des systèmes de glaçage compressif. Tu peux nous en
C'est
dire un peu
ça, ouais.
plus, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Ouais, alors là, on a encore un nom barbare, hein, c'est le IW, donc c'est le Icing Wrap. Donc, on a deux modèles en fait, un petit modèle pour les articulations type poignet, cheville, genou, et un grand modèle pour l'épaule, enfin pour les épaules et le dos. Alors le concept, il est assez simple, c'est une poche de glace avec un capuchon qui se visse au-dessus, dans lequel on va donc glisser les glaçons. Donc on a plusieurs modèles de poche de glace en fonction de la zone simulée. Et ensuite un enveloppement en néoprène dans laquelle la poche de glace s'attache. Et cet enveloppement va donc permettre à la fois de positionner la poche de glace sur le bon endroit et de maintenir cette poche de glace, mais aussi d'avoir cette compression donc nécessaire dans le protocole RICE au bon déroulement de la séance de glaçage.
J'ai une petite question. Est-ce que dans ces poches de glace, elles peuvent être utilisées pour le chaud aussi?
Oui, bien sûr, c'est une bonne question, notamment pour le dos. On conseille plus facilement de mettre du chaud en fait sur le dos, notamment en période aiguë de lumbago ou de douleur lombaire. On va mettre du froid vraiment sur une phase, sur un choc ou sur quelque chose qui vient juste de se produire, mais en général, on va plutôt privilégier le dos pour se détendre, le chaud pour se détendre. Donc on peut effectivement mettre du chaud. Ouais.
D'accord. Et donc, comment on peut faire la différence, par exemple, pour savoir si on va mettre du chaud ou du froid? On peut mettre le froid après une blessure ou après un entraînement. Et donc, après, si on veut faire une séance avec du chaud, comment on peut faire la différence? Parce que souvent, on entend dire
Voilà.
que on peut mettre le
Là,
chaud pour.
je parlais surtout du dos en fait, parce que sur les autres articulations, nous on conseille forcément le glaçage. On rentre dans l'entraînement, on a le tendon d'Achille un petit peu fragile ou un petit peu douloureux, un petit peu tendu. On a le tendon rotulien pareil qui est un petit peu délicat. Là, on met du froid, du froid, du froid, du froid, et ça va permettre justement de bien gérer cette inflammation.
Donc on met du froid pendant 15-20 minutes, ensuite
C'est ça.
on compresse la
On
partie
compresse en même temps. On compresse en même temps. C'est-à-dire
en même temps.
que l'enveloppe ZAMS permet justement, donc l'IW1 ou l'IW2 permettent d'appliquer la glace et de compresser en même temps. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un glaçage encore plus efficace. L'enjeu, en fait, il est vraiment d'abaisser la température au sein des tissus. C'est pour ça que faut bien prendre garde de ne pas. Mettre trop n'importe quoi. Des compresses, par exemple, qu'on met dans le congélateur, vont effectivement abaisser la température, mais on s'aperçoit, étude à l'appui, hein, que ça reste très superficiel, ça rentre pas au fond des tissus, parce que le glaçage se perd très vite. Pareil, les bombes de froid ont un glaçage assez superficiel. Donc voilà, donc il faut absolument privilégier la glace, si possible, et donc ces poches de glace. Ouais.
Et pour le mettre en place, ce protocole RICE, combien de temps après l'entraînement on doit le faire? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce qu'il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure après la douche par exemple?
Non, le plus tôt possible, bien sûr qu'on peut prendre sa douche, récupérer, boire un coup, etc. Maintenant, le plus tôt possible est mieux. Un petit conseil, moi j'ai privilégié de glacer tout de suite, quitte à faire ce que j'ai à faire en marchant. Un des autres bénéfices en fait de l'enveloppement ZAMS, c'est qu'on peut bouger. puisqu'on a les mains libres, en fait, la poche de glace tient toute seule. Donc on ne va pas respecter le E de élévation tout de suite, mais en tout cas, on va glacer tout de suite, ce qui est quand même assez important. Et ensuite, une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, je peux m'allonger et puis finir ma séance tranquillement en respectant scrupuleusement les quatre lettres, quoi.
D'accord. Eh bien, je te remercie pour toutes ces précisions qui vont plaire, j'espère, aux lecteurs et aux auditeurs du blog. Le petit mot de la fin pour toi?
Ah, le petit mot de la fin, pour nous, c'est une aventure assez excitante d'avoir démarré la marque ZAM sur le marché français il y a 4 ans maintenant. Il y a beaucoup de perspectives intéressantes. On voit de plus en plus les trailers, les runners, il y a eu le marathon de Paris il y a quelques temps, prendre conscience que la douleur doit être gérée. La course à pied est un sport intéressant parce que c'est un sport très addictif, comme le triathlon notamment. Et les gens ont tendance à courir sur de la douleur parce qu'ils sont durs au mal et très motivés. Simplement, bah, ça ne fait qu'accentuer la problématique et généralement, ça arrive à la blessure. Ensuite, on trouve des comportements où les gens bah, s'arrêtent après sur une blessure, mais veulent recommencer le plus vite possible, le plus fort possible. Donc, ça ne favorise pas non plus une bonne cicatrisation. Donc, finalement, ZAMS arrive en bon partenariat avec cette discipline. Et si le message passe bien, en tout cas on s'y efforce, bah, de pouvoir sensibiliser les gens dès que la première petite douleur annonciatrice de blessure ou de problématique apparaît, de manière à ce qu'on s'aide, qu'on aide son corps et qu'on mette en place ensuite toutes les stratégies qui vont permettre d'accentuer la prévention des blessures. Je parlais de gainage, je parlais de glaçage, on peut parler d'étirement parfois aussi, d'hydratation. Voilà, il y a tout un tas de stratégies qui permettent d'être fort en prévention et justement d'avoir ZAMS en partenaire d'entraînement. Pour éviter que ces petites douleurs du quotidien qui font partie de l'entraînement ben, ne s'enveniment. Voilà. Donc pour nous, c'est très gratifiant en tout cas d'être un partenaire de tous ces sportifs et on espère continuer à le prendre plaisir avec eux.
C'est parfait, je te remercie Stéphane. À bientôt.
Et ben, merci, à très bientôt.
Et voilà, l'interview est achevée. Si vous avez des questions ou des commentaires, posez-les sur le blog. Je vous y attends. Et je vous dis à très vite sur Testeur Outdoor.